midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui, c'est Karima Berger. Bienvenue, Karima.
Bonjour.
Là, je vais me tourner vers la caméra, je regarde bien. Si vous êtes en train d'être filmé, et vous êtes filmé, c'est formidable. Je peux donc reprendre l'émission. Vous êtes essayiste, romancière, et vous venez nous parler de votre nouveau livre. Il s'appelle « Les gardiennes du secret, les grandes figures de l'imaginaire musulman » aux éditions Albin Michel. Alors, vous êtes ni théologienne, ni historienne. À quel genre votre livre appartient-il ?
Au genre littéraire, j'ai envie de dire, parce que les romanciers, ceux qui écrivent, ou même les poètes, ils pensent aussi. Donc je pense que c'est le registre littéraire, c'est-à-dire que c'est la langue qui m'a portée dans ce livre, mais c'est la langue aussi, la langue du Coran, la langue des hadiths, la langue de tous les récits que j'ai entendus enfant, ou que j'ai lus depuis, qui m'ont aussi portée. Donc c'est d'abord peut-être le registre littéraire qui m'a portée. Et je peux dire aussi qu'il y a, vous appellerez ça peut-être une bienveillance aussi, mais...
Je l'ai appelée la bienveillance.
C'est vrai que...
Je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, donc je l'assume. Donc,
oui. C'est vrai que cette culture de l'islam, cette civilisation de l'islam, cette religion de l'islam, pour moi, c'est un tout en fait. La religion, la civilisation, la culture forment un tout que j'ai envie d'explorer, qu'on n'a pas fini d'explorer, et en tant que femme notamment. C'est peut-être le deuxième registre, c'est le registre aussi féministe. C'est comment une femme va lire, va interpréter, va écouter tout ce qui s'est dit dans la culture de l'islam sur les femmes.
Mmh. Féministe plus Ibn Arabi.
Oui, plus l'émir Abdelkader.
Et l'émir Abdelkader.
Qui est aussi mon maître intérieur, si je peux me permettre.
Alors, vous convoquez la figure de votre grand-mère, Sultane Tatouée. C'est elle qui, la première, vous apprend la fatiha. Quel souvenir vous gardez de cet apprentissage de la fatiha ?
C'est un souvenir très fort, très puissant. J'étais malade, je crois que j'avais 6 ans, 6-7 ans. Et une longue maladie. Et ma grand-mère venait tous les jours me voir. Elle s'installait près de moi. Et elle m'apprenait la fatiha. Et donc chaque jour, c'était un verset. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument pas. On parlait l'arabe dialectal ou le français. Mais cet arabe classique du Coran, je ne comprenais pas. Mais elle me disait, c'était la langue de Allah. C'était la langue divine. Alors j'étais complètement troublée, stupéfaite par comment dans ma bouche je peux retrouver la langue de Dieu. Et donc j'étais très excitée, même toute fiévreuse et toute faible, j'étais quand même allumée, je dirais, par cet apprentissage. Et au bout de quelques jours, je sais pas, une dizaine de jours, j'ai réussi à la réciter tout en entier. Et donc elle a poussé des youyou, elle a appelé tout le monde dans la maison pour me féliciter, pour dire que ma guérison était sans doute proche, puisque maintenant je pouvais dire la fatiha toute seule comme une grande.
C'était son job à elle.
Oui, c'était son job. C'était vraiment. C'est pas ma mère qui me l'a apprise. Mon père veillait de loin, et la grand-mère a joué un rôle magnifique. J'appelle Sultane parce que
Sultane tatouée.
Oui, parce qu'elle avait un mouchma sur le front, qui m'a toujours intriguée. Pendant qu'elle m'apprenait, je regardais ce signe un peu kabbalistique. Je me demandais ce que c'était. Et voilà. Et elle m'a appris aussi d'autres choses. Plus tard, parce que elle m'a appris ce verset, les femmes sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. On y reviendra tout à l'heure. Elle me l'a pas appris dans la langue, elle m'a pas récité le verset coranique, parce que je pense pas qu'elle le connaissait, mais elle me l'a appris par son corps, par sa façon d'être en tant que femme, par sa façon. Par sa façon de dire, sa façon d'être, elle m'a appris que les femmes étaient les gardiennes du secret.
Longtemps, vous avez trouvé que cette fatia, finalement, vous avez lissé l'âme. Qu'est-ce que ça voulait dire ?
À elle me lisse l'âme.
Ça veut dire quoi?
Ça fait elle me lisse l'âme.
Ah oui, d'accord. Moi, je l'avais écrit en deux mots.
Hein. Oui, c'est ça. Je l'ai écrit en deux mots.
C'est pour ça. Hein.
Voilà, elle me lisse l'âme.
Mais maintenant que vous me le dites, c'est évident.
Et c'est ça la langue. Hein. C'est ça où je suis. Où c'est aussi l'écrivaine qui parle, qui joue avec les mots, qui se laisse porter par les mots. Elle me lisse l'âme. Voilà, je l'ai trouvé comme ça. Hein. Je l'ai pas cherché du tout, et c'est venu au moment d'écrire. Et elle me lisse l'âme, quelque chose qui me rafraîchit, qui lisse les aspérités, qui lisse les difficultés, qui lisse, qui m'apaise, voilà, qui me lisse l'âme. J'ai trouvé que c'était très beau cette expression.
Chaque verset du Coran possède un sens apparent et un sens caché. Comment est-ce que vous comprenez cette parole du prophète?
Cette parole du prophète, ce hadith, pour moi, c'est aussi un de ces petits trésors qu'il y a dans tout ce livre. Vraiment un trésor pour moi. C'est un guide même. C'est un guide, je dirais. C'est-à-dire, quand je lis avec ça en tête, en arrière de mon cerveau. Tout verset a un sens apparent et un sens caché. Et ce qui m'intéresse, c'est le sens caché. C'est le sens secret. C'est le sens de ce qui n'est pas dit. Dieu, je pense pas qu'il parle aux hommes comme un homme politique ou comme un député ou comme un homme qui édicte des lois. Je pense qu'un prophète qui est Rasulullah, donc qui reprend la parole de Dieu, parle avec une espèce de voile. Hein. Peut-être on parlera aussi du voile. Il parle avec une sorte de transparence. Il faut un peu cacher les choses. Il faut pas les dire trop brutalement. Il faut pas les dire de façon trop directe, trop frontale, parce que c'est à l'homme aussi d'engager son intelligence pour comprendre. Si je dis tout d'un seul coup, peut-être tu vas pas le recevoir parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Tu vas dire non, ça c'est pas pour moi. Donc je te le dis à la façon des prophètes ou à la façon des poètes ou à la façon divine de voiler toujours un peu les choses. Et donc moi j'ai ma part, le Dieu a sa part, et toi en tant que lecteur ou en tant qu'écoutant du Coran, tu as ta part aussi. Tu dois aussi essayer de franchir ce voile que je te propose. Donc ce sens caché que tu dois rechercher.
Alors Karima Berger, quel est le premier musulman pour vous? C'est Ali, bien sûr.
Et non. Voilà, puisqu'on dit toujours que le premier musulman, c'est Ali, c'est le cousin du prophète. C'est celui qui a ensuite été le malheureux non-successeur, hein, vraiment, puisque pour lui, il devait succéder au prophète Mohammed. Donc, il est successeur tardif après les quatre,
oui.
Bon, dont on connaît l'histoire. Hein, et on dit toujours que c'est Ali. Mais pour moi, c'est une femme. C'est une femme, c'est l'épouse du prophète qui a...
Pour vous, le premier musulman, c'est Khadija.
Le premier musulman, oui, je le dis au masculin, pour souligner les choses. Mmh. Voilà,
Et ça ne se dit pas.
Et ça ne se dit pas, mais ça doit se dire. Et c'est aux femmes aussi de rappeler que le premier être qui a cru en prophète Mohammed, c'est sa femme, son épouse, son intime, celle qui est dans sa plus stricte intimité, la plus cachée. Là, on revient aussi à quelque chose qui est très intime, très intérieur et qui compte aussi beaucoup pour moi. Khadija, sa première épouse, avec qui il a vécu pendant plus de 20 ans et où il a été aussi monogame, hein, c'est-à-dire elle a été unique pendant plus de 20 ans. On dit le prophète polygame, c'est après qu'il a été polygame, quand il a fallu construire l'État, faire des alliances avec un tel, toutes les veuves, hein, dont les époux avaient été tués dans les combats, etc. etc.
Alors vous nous racontez comment elle le demande en mariage.
Vous voulez que je raconte
ça? Non, c'est dans le livre. Par contre, il y a une vous rapportez une scène, hein, dans votre livre, une scène qui est elle-même rapportée par des chroniqueurs, hein, de l'histoire musulmane, entre justement le prophète et Khadija, au moment du début de la révélation.
Oui. Oui, c'est une scène inaugurale. Vraiment, pour moi, il y a la première scène inaugurale, c'est la première descente du Coran avec le verset Iqra qui est tombé sur le prophète Mohammed dans sa grotte. Hein, c'est l'instant inaugural. Et le deuxième, peut-être, instant inaugural aussi, c'est quand il vient voir son épouse, après plusieurs retraites dans le mont Hira, et il lui dit, écoute, Khadija, je suis inquiet, je suis tourmenté, et il est angoissé, il est complètement, il sait pas quoi faire. On dit même qu'à un moment, il a failli se jeter, du haut de ce rocher, et donc il est angoissé, et il lui dit, je suis visité par une créature, et je ne sais pas si c'est le diable, ou si c'est un ange. Voilà.
Et donc c'est elle qui va lui apprendre que c'est un ange.
Voilà, voilà. Donc comment une femme qui n'est pas savante, qui n'est pas... Enfin bon, c'était une femme d'affaires, etc. C'était quand même une femme qui était une manager, comme on dit aujourd'hui, dont il était l'employé. Comment elle sait? Comment elle sait? Elle n'est pas... elle n'a pas de savoir académique, ce n'est pas une savante, ce n'est pas une théologienne. Et elle lui dit ceci, elle lui dit, viens contre moi. Je raconte la scène en détail parce qu'elle est vraiment très belle et elle est complètement chroniquée dans la vie du prophète. Hein. Par Tabari, vous la retrouvez d'ailleurs sous deux versions. Et donc elle lui dit, viens t'asseoir sur mon genou droit.
Cousin.
Cousin, oui, parce qu'à l'époque, les liens étaient, vous avez raison de souligner ça, étaient très forts, endogamiques. On se mariait à l'intérieur d'une même tribu ou d'un même clan, disons. Viens t'asseoir sur mon genou droit. Il dit, est-ce que tu le vois? Il dit, oui, je le vois encore. Je vois cette créature et je ne sais pas la différencier. Alors, assieds-toi sur mon genou gauche. Et sur le genou gauche, est-ce que tu le vois? Oui, je le vois encore. Viens t'asseoir dans mon giron. On dit en arabe, en tout cas en algérien, fihjeré, c'est-à-dire entre les deux cuisses, quoi. Vraiment.
Le giron. Ouais. Le giron. Même si on a perdu effectivement l'explication aujourd'hui, mais c'est
le
gros.
Voilà. Donc, que ça soit au milieu, est-ce que tu le vois encore? Oui, je le vois. Alors elle lui dit, écoute, viens contre ma peau, entre ma chemise et ma peau. C'est-à-dire que c'est le prophète qui va se voiler, puisqu'il va se mettre entre sa chemise et sa peau, sur le bacharan, sur la peau. Donc c'est le mot premier. Et donc il se met contre sa peau et il se voile, parce qu'il y a toujours... Il y a toujours quelque chose de caché. Donc il se met sous sa chemise. Et elle lui dit, est-ce que tu le vois? Il dit, non, je ne le vois plus. Et elle pousse un soupir de soulagement. Et elle lui dit, tiens-toi ferme, cousin. Ce n'est pas le diable, c'est bien un ange qui te visite. Car quand un homme et une femme sont en état d'intimité, les anges s'éloignent par pudeur. Et donc cette parole est quand même puissante, quand même. Une femme qui lui dit, c'est un ange. Donc elle sait ce qu'elle ne voit pas, puisqu'elle n'a pas vu la créature, et lui ne sait pas ce qu'il voit. Donc c'est ce partage entre homme et femme, où lui voit et elle sait. Et ce partage ne va cesser de se nouer dans le Coran et même dans l'histoire de l'islam, où les femmes ont un savoir qui n'est pas le savoir académique, qui n'est pas le savoir scientifique. Elles ont quelque chose. Alors, on a dit, les femmes ont l'intuition. Hein, on dit...
Oui, oui.
Les hommes disent, oui, c'est l'intuition féminine. Pour moi, c'est un peu comme... voilà, ça n'a pas le même statut que nous, les hommes, qui nous savons. C'est l'intuition. Eh bien... En écrivant ce livre, le mot m'est arrivé complètement, là aussi, de façon...
Sous la plume,
voilà. Comme ça, guidée par mon inspiration. Et c'est une compétence pour moi. C'est vraiment, je dirais, les femmes ont une compétence. Il ne faut plus dire l'intuition féminine. Voilà, je revendique quelque chose. Ça n'est pas une intuition, c'est une compétence. Donc, on ne dit pas c'est une intuition féminine, on dit c'est la compétence des femmes. Elles savent quelque chose que les hommes ne savent pas. Qui n'est pas plus ou moins, hein. Il n'y a pas d'ordre de degré. Elles savent quelque chose que les hommes ne savent pas.
Et il y a la présence de ce voile déjà, hein. Voilà.
C'est ça.
Qui cache.
Voilà. Parce qu'on a besoin de secrets pour des choses aussi puissantes. Je veux dire, quand un homme et une femme sont en état amoureux, bah, ils ont besoin d'intimité. Mmh. Et le rapport à Dieu, le rapport au message du prophète, il doit rester, il doit aussi se tenir secret. C'est ce hadith c'est le verset du Coran qui dit, quand tu pries, ne prie pas à haute voix et ne prie pas à basse voix. Prie à mi-chemin d'une voix qui est peut-être que peuvent entendre les anges, mais pas une voix trop forte et pas une voix complètement silencieuse. Et peut-être c'est le registre même du registre divin, humain.
Karima Berger est notre invitée, l'invitée du Book Club jusqu'à 13h. Je rappelle le titre de ce livre dont on parle ce matin. Karima s'appelle Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman, dont on parlera tout à l'heure, de l'imaginaire musulman, même si elles ne sont pas toutes musulmanes, on le verra également. Et votre éditeur, c'est Albin Michel.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, Karima Berger qui est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle « Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman » chez Albin Michel. Donc ces grandes femmes de l'islam, vous leur aviez promis de parler d'elles. La première, c'est Agar. Agar, la servante de Sarah, à qui vous dédiez le livre. Et la deuxième, c'est Sherazade. Pourquoi Sherazade ?
Pour moi, ce sont deux femmes emblématiques, mais pourquoi Sherazade ? On reviendra sur Agar. Pourquoi Sherazade ? Parce que
Vous voyez, je fais exprès de vous poser la question. Hein, oui. Parce que finalement, Agar, on comprend. Oui. Mais Sherazade, on dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire ?
Sherazade, je l'appelle la rédemptrice parce qu'elle nous a sauvés. Elle a sauvé non seulement le genre féminin, mais elle a sauvé le genre humain. Hein, je rappelle, Sherazade, donc c'est l'héroïne des Mille et Une Nuits. Elle est l'épouse d'un espèce de tyran, enfin un sultan imaginaire, hein, puisque les Mille et Une Nuits, c'est une œuvre de fiction. C'est une œuvre de fiction. Son mari est extrêmement jaloux parce qu'il a vu d'autres femmes tromper leur mari, donc il a dit toutes les femmes sont comme ça, donc je vais te tuer. Enfin, donc elle lui dit je vais te raconter une histoire, et elle lui commence par lui raconter Il était une fois, et elle commence le premier récit. Donc elle fait appel à son intelligence, à son imagination, à sa sensualité, à sa poésie, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans Les Mille et Une Nuits, et elle commence à lui raconter. Et c'est une sorte d'ivresse, comme si elle énivrait un peu son mari.
Elle invente le teasing.
Elle invente le teasing, tout à fait. Absolument. Oui, oui, c'est très juste. C'est très, très juste. Qui va durer le teasing Mille et Nuits. Mais ne va pas arriver ce qu'elle avait prévu au début. Voilà, par rapport au teasing. Et donc elle raconte, et il lui dit raconte-moi la fin. Il lui dit ah non, ça, je te raconte ça demain. Et il est tellement pressé d'écouter la fin du récit qu'il ne la tue pas et qu'il diffère son projet de l'assassiner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc elle va le tenir comme ça, mille et une nuits. Ils font des enfants, ils ont le temps de faire des enfants, bien entendu. Et à la fin, donc il lui dit mais comme ton conte est beau, comme tes récits sont beaux, c'est-à-dire il les convertit. Elle convertit son époux qui avait imaginé de tuer sa femme et toutes les femmes. Elle le convertit à la beauté de la poésie, de l'imagination, des récits, de l'invention, de la fiction. Et je trouve ça magnifique, comme parce qu'elle non seulement elle a sauvé sa peau avec la parole, elle a sauvé la peau de ses sœurs, de ses femmes, et elle a sauvé le genre humain, puisque s'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'espèce, il n'y a plus de génération, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc c'est extraordinaire. Voilà, Sherazade, je l'aime beaucoup. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, mais Sherazade, c'est une œuvre de fiction, hein ? C'est pour ça que je dis dans l'imaginaire musulman, mais elle compte aussi beaucoup pour nous. Et Sherazade n'est pas seulement, telle qu'on la voit en Occident, la danseuse des sept voiles. C'est une femme qui parle, une femme qui prend la parole en son nom, qui invente, qui ose, qui dit, qui récite. Donc elle met son corps en jeu, elle met son intelligence en jeu. Il y a deux mots que je retiens beaucoup pour les femmes, c'est la compétence dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'intelligence, parce qu'il y a une intelligence qui est aussi à l'œuvre, qui n'est pas la même. Et je reviens donc sur Les Mille et une Nuits, et c'est une œuvre de fiction qui s'est étalée sur plusieurs siècles, parce qu'elle a été écrite sur plusieurs siècles, elle a été écrite sur plusieurs continents, sur l'Inde, la Syrie, l'Orient, et elle a été écrite par des hommes, normalement, puisque les hommes sont inconnus, on ne sait pas qui a écrit, mais je suis persuadée qu'il y a un génie féminin qui a présidé à l'écriture de ces Mille et une Nuits.
Alors il y a Agar, la bannie, qu'est-ce que ça signifie Agar d'ailleurs? Que signifie son prénom?
C'est un nom troublant, un nom blessant, un nom qui me fait mal parce qu'il veut dire l'exilé, qui veut dire la fuyarde, qui veut dire... qui veut dire celle qui fuit, celle qui part, l'exilée. Et Hajar, en tout cas en Algérie, peut-être dans les autres pays, je ne sais pas, mais il y a peu de prénoms, il y a peu de femmes qui s'appellent de ce nom, qui ont ce nom, comme ça, peut-être parce que c'est un nom qui blesse, ou c'est peut-être une interprétation personnelle, ce que je suis prête à assumer tout à fait, ce que je dis là. Peut-être c'est important pour les auditeurs.
Il y a beaucoup plus de femmes qui s'appellent Leïla. Alors, d'où vient ce prénom, Leïla?
Leïla, c'est la nuit. Voilà, Leïla, c'est la nuit. Et la nuit, elle dit tout de l'islam. Elle dit tout de la lumière de l'islam, de la lumière de la nuit. Parce que la nuit porte la lumière en elle, la lumière des étoiles, la lumière de ce qui... Vous ne pouvez pas voir la lumière... La lune, vous la voyez grâce, parce qu'elle reflète le soleil, parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Vous voyez, il y a tout un jeu entre la lumière et l'ombre en islam qui est extrêmement important. Peut-être on reviendra sur Layla et Majnoun. Et Hajar,
oui, parce qu'on parlait des Mille et une Nuits, mais il y a un autre conte qui a fait le tour du monde aujourd'hui. Alors, qui est peut-être un peu moins connu, mais c'est justement cette histoire d'amour entre Layla et Qais.
Layla et Majnoun, Layla et Qais, tout à fait, puisqu'il s'appelle Qais au début. Et c'est un conte, un récit qui est devenu ensuite un récit mystique, mais c'est un conte de la tradition orale contemporain du 7e siècle du prophète Mohammed, qui est né en Arabie. Après, ça a été repris beaucoup par le persan. Et donc, Qais est fou, amoureux de Layla. Sauf qu'il est poète et il a chanté la beauté de Layla dans les rues de la ville, donc on ne chante pas, donc c'est un déshonneur. Donc le père de Layla interdit bien sûr tout contact entre sa fille et ce Qais en lui disant tu ne peux pas, c'est un homme qui t'a déshonoré puisqu'il a chanté ta beauté, c'est comme s'il t'avait dévoilé devant les autres. Et donc il lui interdit, et lui devient fou amoureux. Il lèche le sol où, par où est passé Layla, il caresse le chien que Layla a caressé, il se cache dans un troupeau de moutons, et il se cache parce que Layla a un rapport avec ce troupeau de moutons, enfin, donc tout ce qui a rapport avec Layla. Et donc il... éperdu amoureux, il se...
Le fou de Layla.
Voilà, il devient fou, il devient fou, il va au désert, il ne mange plus, il ne boit plus, il vit parmi les animaux, et il y a de très belles miniatures persanes, vous pouvez regarder sur YouTube, très belles, où vous voyez le pauvre Majnoun qui est complètement amaigri, on voit plus que ses côtes, et qui pleure. Et juste pour finir cette très belle histoire, pris de pitié, peut-être la tribu de Layla dit bon, tu peux voir, tu peux avoir accès à Layla, tu peux la voir. Et il dit mais je vais pas la voir, je veux plus la voir, parce que si je la vois, la personne de Layla va me cacher la Layla que j'aime. Je peux pas en dire plus, mais ce que je peux dire, c'est que les mystiques se sont emparé de ce conte en disant si je mets un intermédiaire entre Dieu et moi, je vais plus voir Dieu. Voilà. Et l'autre interprétation des mystiques, c'est que peut-être seul le féminin va me permettre de voir Dieu. Le féminin, la beauté.
Autre gardienne du secret, Marie, il vous parlait du récit coranique de l'Annonciation. Il y a une, une SWAT hein, d'ailleurs, oui, qui porte son nom. Marie, quel rapport avec le prophète? Parce que vous voyez un lien avec le prophète.
Oui, je le vois. Je le vois dans l'accueil, dans la posture d'hospitalité, dans l'accueil pour le prophète Mohammed de la parole divine, et pour Maryam dans l'accueil du Ruh Allah, du souffle de Gabriel. Je pense qu'ils reçoivent quelque chose du divin de façon différente, mais de façon accueillante dans leur corps. On a déjà mis en scène le corps de Mohammed, puisque il est bien, il se met en retrait, et comme peut-être comme tous les prophètes aussi, hein, là je les ai pris parce que Marie aussi. Je peux raconter l'histoire de Maryam, peut-être.
On va la garder.
On va garder la gardienne.
Oui. Mais... Une de vos gardiennes préférées, c'est Rabia El Adawiya. Mm. Alors, elle, première, peut-être la vraie princesse spirituelle. C'est une figure qui est moins connue, quand même, celle de Rabia.
Oui, Rabia, elle est connue dans le milieu soufi, dans le milieu, mais même dans le milieu très populaire. Il y a eu un film qui a été fait sur Rabia al-Adawiya et qui passe, on se souvient, en Algérie.
Pour tous les mois de Ramadan.
Voilà, tous les mois de Ramadan, c'est un film égyptien où c'est la vie de Rabia al-Adawiya qui est mise en scène. Donc, dans le milieu populaire, Rabia al-Adawiya est connue. Alors, évidemment, ses poèmes ou ses quatrains ne sont pas tous connus, mais elle est une figure, une très belle figure, hein, Rabia al-Adawiya. C'est un siècle après le prophète, hein, c'est le 8e siècle, donc c'est quand même presque contemporain, disons. Elle n'a appris de personne, elle n'a pas eu de disciples.
C'est une autodidacte.
Une autodidacte, absolument. Mmh. Que Dieu a pourvu d'illumination, hein, on peut dire, c'est une très très grande mystique, c'est la première mystique, la princesse des mystiques, dit-on, puisqu'elle était une esclave, joueuse de flûte, chanteuse, peut-être aussi d'autres choses. Hein. Et puis elle a été libérée par son maître le jour où il a vu que...
Qui était très méchant avec elle, en fait.
Ouais, qui était très dur
avec elle.
Très, très dur avec elle, et il se réveille la nuit, et il voit qu'il y a une lumière au-dessus de sa chambre. Et là, plus tous les autres comportements de Rabia, quand il la voit se prosterner, quand il la voit en méditation, plus cette petite lumière en pleine nuit, et il la libère le lendemain matin, et on dit que ses doigts luisaient comme des lampes la nuit. Enfin, c'est toujours, voilà, il faut toujours la lumière, il faut toujours la nuit pour que se révèle la lumière. Et Rabia n'a pas écrit, mais elle a laissé des paroles, des hadiths. Elle a laissé, on ne peut pas dire hadith parce que le hadith est réservé aux prophètes et ensuite aux imams de la tradition chiite. Elle a laissé des paroles qui sont reprises et qui sont très très belles. Et c'était une... Donc elle était musulmane, hein, après. Et elle a... je pense, ça c'est mon interprétation, mais elle a vu arriver, je pense, l'enfermement qui menaçait l'islam, notamment toute cette question des rites, toute cette question de la loi, toute cette question de l'obligation, toute cette question du halal et du haram dont on parle maintenant, qui a envahi tout le champ de l'islam de façon gigantesque et qui nous fait oublier le vrai sens spirituel du message de Mohammed. Et elle voyait déjà poindre, je pense, cette menace. Et elle disait, par exemple, on la voyait et elle avait un seau dans la main gauche et elle avait une torche, donc avec du feu dans la main droite. Et on lui dit, où tu vas comme ça, Rabia? Elle dit, eh bien, je vais mettre le feu au paradis. Pour qu'il brûle, je veux que le paradis brûle, et je vais mettre avec un seau d'eau, je vais inonder d'eau l'enfer pour qu'il n'y ait plus d'enfer. Pourquoi ça? Il n'y aura plus de paradis, il n'y aura plus d'enfer? Non, il n'y aura plus ni de paradis ni d'enfer. Et quand le musulman priera son Dieu, quand il récitera son Coran, il le fera par pur amour de Dieu, sans attendre qu'un jour il puisse être admis au paradis, ou sans avoir peur qu'un jour il termine en enfer. C'est le pur amour, la pure gratuité, ce que veut Dieu, ce qu'a voulu Dieu, je pense, et que maintenant... Et donc voilà, elle a vu cette menace, et je trouve ça magnifique. Il y a d'autres anecdotes, mais il faut lire le livre aussi.
On vous donne envie, voilà, en feuillette. C'était une des autres gardiennes du secret dont vous parlez dans votre livre, hein, les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman chez Albin Michel. On va s'intéresser à la traduction du verset 34 de la sourate 4 dans un instant. C'est le Book Club de Karima Berger ce matin.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Notre invité aujourd'hui, c'est Karima Berger qui publie Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman aux éditions Albin Michel. Je vous parlais avant la publicité de cette sourate 4, hein, dite les femmes, Nissa, et du verset 34, puisque c'est au cœur de ce verset qu'on trouve les gardiennes du secret.
Oui, c'est ça. C'est qui a donné son titre au livre.
Au livre, oui.
Voilà, oui, c'est un verset étonnant parce qu'il est. C'est un verset qui se. Enfin, le verset 34, il est assez long. Et les féministes disent, les féministes occidentales, disent que c'est le verset le plus misogyne du Coran. C'est incroyable, parce qu'il parle... Vous savez, les hommes ont un rang supérieur aux femmes, etc.
Ça commence comme ça, ouais.
Voilà. En fait, c'est pas ça. Et des grandes théologiennes comme Asma al-Rabat, Mernissi, Neila Tabara, parce qu'il commence à y avoir des théologiennes femmes, et qui ont montré que la supériorité était liée au devoir économique des hommes de subvenir aux besoins de la famille. C'était pas du tout une supériorité essentielle. Et puis le deuxième, c'est si elles vous sont, donc la fin du verset, si elles vous sont indociles, faites ceci, faites cela, et sinon, ben, battez-les. Donc là aussi, c'est une interprétation qui est fausse, parce que battez-les, c'est en fait, c'est pas battez-les, c'est prenez en exemple, donnez-leur l'exemple d'un éloignement. Voilà, éloignez-vous d'elle, hein, puisque le mot d'Araba existe plusieurs fois dans le Coran et il a à chaque fois des sens différents.
Vous avez comparé d'ailleurs toutes les traductions, enfin beaucoup de traductions qui en existent. Mais le secret dont on parle.
Et au milieu de.
Alors c'est quel mot en arabe ce secret?
Alors le secret c'est en fait le raïb, parce que le secret c'est sir. Mais là, c'est le raïb. C'est le raïb et je n'ai pas voulu traduire par les gardiens du mystère. Parce que les gardiens du mystère, ça fait un peu ésotérique. Ça nous envoie sur des choses qui sont pas justes. Donc j'ai dit les gardiens du secret. Donc les gardiennes, donc les femmes.
On sait que ce sont elles qui le gardent, mais on ne sait pas très bien en quoi consiste ce mystère.
Voilà,
finalement.
Ce secret. Les femmes vertueuses, mais je considère que nous sommes toutes vertueuses, les femmes vertueuses sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. Bima hafidha Allah. Mais on ne sait pas ce que c'est que le, comme vous le dites, on ne sait pas ce que c'est le secret, mais on sait que Dieu leur a confié un secret. Et j'ai trouvé ça magnifique d'avoir au milieu de ces deux versets, d'avoir cette tranche-là. Et j'ai dit, ça c'est pour moi. Jusqu'à présent, mais je ne suis pas une grande connaissance, je ne suis pas du tout une connaissante. J'espère qu'il y a des commentaires de cette phrase que je n'ai pas trouvée. Donc il y a encore beaucoup de travail devant nous, à nous femmes, pour aller exhumer tous ces versets.
J'aime bien parce que vous dites, mon savoir est subjectif.
Oui, et je le revendique.
Ouais.
Peut-être d'autres femmes, d'autres personnes viendront et mettront en cause ce que je dis là aujourd'hui, et j'accepterai si c'est soutenu, si c'est justifié. J'ouvre des pistes. Il y a énormément de travail à faire et nous en sommes au tout début.
Et chaque femme, pardon, que vous convoquez, elle a une partie du secret, donc c'est ça.
A une partie du secret, a une partie, oui, c'est tout à fait un tableau, un espace de kaléidoscope, hein, où à chaque fois on voit chacune complète le portrait de l'islam. Le portrait du secret de l'islam et du secret de cette religion, de ce message, parce que l'islam c'est d'abord un message. Et ce verset donc a été traduit par la plupart des traductions, notamment la traduction de l'Arabie saoudite, ce Coran que l'on trouve partout dans les librairies. C'est les femmes vertueuses, dévotieuses, doivent garder leur pudeur comme le leur a commandé Dieu pendant l'absence de leur époux. Entre parenthèses, pendant l'absence de leur époux. Alors que nulle part dans le verset, il y a le mot époux. Il y a comme le leur a commandé. Mot à mot, c'est vraiment les femmes vertueuses, dévotieuses, sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. Et on a rajouté les époux ou les maris
ce que Dieu garde,
dans une dizaine de traductions. Je les cite dans le livre. On peut
oui, oui, c'est pour ça que je dis que...
Voilà. C'est quand même... alors ça, c'est à la fois dans la traduction, mais quand vous demandez à un musulman ce que ça veut dire, eh ben, il vous dit ça. Parce que dans la tradition du commentaire du Coran, c'est les femmes doivent se garder pendant l'absence de leur mari. Voilà. Donc c'est là où nous femmes, nous avons un travail à faire et à revisiter, à relire, à lire simplement peut-être avec un autre œil. Parce que quand même, tous les commentaires, toutes les traductions, tous les exégètes sont des exégètes masculins quand même.
Même si vous expliquez que ce n'est pas une lecture genrée du Coran que vous faites.
J'ai pas envie, non. Non, ça m'intéresse pas trop. C'est juste... Non, j'ai pas envie de... Je suis féministe, bien sûr, au niveau des droits, au niveau de l'égalité des droits économiques, sociaux, politiques, du droit à disposer de son corps. Là, il n'y a pas photo, c'est clair. Pour moi, il n'y a aucune contestation possible. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est cette distinction entre le féminin et le masculin, entre les femmes et les hommes. Dieu nous a voulu ainsi, et je pense que ce que je crains, c'est que les femmes, à force de vouloir loucher du côté du pouvoir des hommes, et moi-même j'ai été comme ça, adolescente et plus tard, est-ce qu'on va pas y perdre ? Est-ce qu'on va pas perdre quelque chose de ce savoir, de cette compétence, de cette intelligence ?
Parmi les femmes que vous convoquez ou que vous appelez dans votre livre, il y a une Isabelle. Alors cette Isabelle, c'est qui ?
Isabelle Eberhardt, elle tient une grande place dans mon cœur. Isabelle Eberhardt est une jeune femme suisse, un peu rebelle. Elle est née juste avant le XXe siècle, en 1897.
C'est les années, oui, voilà.
Oui, 1897. Et déjà à 15 ans, elle écrit en Suisse. Elle dit « Mon âme est en Orient et mon corps est en Occident ». Et déjà, elle commençait à apprendre l'arabe, elle commençait à lire le Coran. Elle avait un attrait vers l'Orient. Bon, c'était aussi la mode, Rimbaud, c'est toute une tradition à laquelle elle se rattache, de façon consciente ou pas. Elle ne cite pas Rimbaud. Non, elle ne cite pas Rimbaud du tout. Je crois pas. Non. Et donc, elle va, dès qu'elle a 20 ans, 19 ans, elle arrive en Orient.
Elle embarque.
Elle embarque.
On prenait le bateau à l'époque.
Voilà, elle embarque. Voilà. Et elle arrive à Annaba. Et elle est et tout de suite elle tombe, elle écoute.
Elle entend le muezzin, voilà. Et là, bim.
Oui. Le muezzin a converti beaucoup d'occidentaux et elle tombe amoureuse de l'islam. Elle se convertit, elle est là, elle est parmi le peuple des Arabes, des Algériens, et pourquoi je la cite ? Parce que je pense qu'elle a compris, elle a saisi. Comme en l'ABA, comme d'autres qui n'ont été initiées par personne. Par personne. Elle n'a pas eu de disciples, elle n'a pas eu. Elle a été soufie après, elle a fait partie de l'Arkaderia, mais elle a compris l'essentiel de l'islam, ce que j'appelle le tawakkul, c'est-à-dire cet abandonnement confiant. Tawakkul ala Allah, c'est abandonne-toi à Dieu, repose-toi en Dieu, sois confiant en Dieu. Alors on a parlé de parole, on a parlé de l'acte de soumission, mais je pense que c'est tellement plus beau. Salah Stettier, qui est un très grand poète, qui est mort maintenant il y a quelques années, 5 ans maintenant, il parlait de l'abandonnement confiant en Dieu. L'abandonnement, c'est comme un processus. Hein, vous voyez que c'est pas un abandon en une fois. C'est voilà.
Je voudrais que vous nous lisiez quelque chose, Isabelle Eberhardt, pour terminer cette émission.
Oui, je veux bien. Je veux bien. Dès les commencements extrêmes de ma vie arabe, la splendeur incomparable du Dieu de l'islam m'éblouit, m'attira en un ineffable désir de pénétrer mon être de la grande lumière douce issue de l'âpre et magnifique désert. Je voudrais pouvoir me prosterner dans la poussière en une adoration infinie. Pour la première fois, je murmurai avec la foi inébranlable des Arabes, Allahu Akbar. Je n'étais plus seul en face de la splendeur triste des mondes. Conduite par une force mystérieuse, j'ai trouvé ici ce que je cherchais. Force et quiétude des choses qui semblent durer indéfiniment parce qu'elles s'acheminent doucement vers le néant, sans fracas, sans révolte, sans agitation, sans même un frisson, vers l'inévitable mort. Je me nourris que de silence et de thé tiède. Des vibrations glorieuses montent du sol stérile. Tous les êtres affaissés se redressent, alors plus grands et plus beaux. C'est une douce et très consolante renaissance de l'âme tous les soirs. Je ne suis plus qu'un corps subtil. Mon âme est comme une grande coupe qui déborde.
Isabelle Évrard. Alors, elle avait un double littéraire, d'ailleurs. Hein.
Oui, oui, elle était écrivaine. Je ne l'ai pas dit, pardon.
Mahmoud Saadi. Elle écrivait des papiers sous ce nom de plume.
Elle a écrit des romans, des nouvelles. Elle était journaliste aussi. Et elle a pris non seulement son nom de plume, c'était Mahmoud Saadi, mais son nom aussi, on l'appelait Mahmoud. Et tout le monde faisait comme si on ne voyait pas que c'était un homme, parce qu'elle était déguisée en homme.
Elle s'habillait.
Et elle était mariée avec un homme qu'elle chérissait beaucoup, qui s'appelait Mahmoud.
Qui s'appelait Slimane.
Ouais. Vous voyez, je fais une confusion, merci. Et qu'elle chérissait beaucoup, et c'était un très très beau couple.
Voilà. Et elle est morte tragiquement, hein, victime des éléments déchaînés en Algérie.
Oui, parce qu'elle était très pauvre et elle vivait dans une petite baraque avec Slimane. Et les passages que j'ai cités, notamment les derniers, elles étaient dans une zaouïa dans laquelle elle est restée pendant plusieurs mois, à Kenatsa. Elle parle des... les palmiers, des couchers de soleil, et elle sait qu'elle va mourir, et elle a juste le temps de retrouver son Slimane, et ils se retrouvent, peut-être le temps de s'aimer, peut-être le temps de se revoir, et il y a une crue qui va envahir la ville de Ain Safra, où ils habitaient.
C'était le book club de Karima Berger. Allez, je rappelle, Karima, le titre de votre livre, ça s'appelle Les gardiennes du secret, avec une très belle gardienne en jaune sur la couverture. Les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman chez Albin Michel. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous pourrez voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Karima.
Merci beaucoup.
Pour ce bon moment, votre compagnie. Passez un très bon dimanche sur beurrefm.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.